Merci d'écouter RFI, midi en temps universel. Il est 13h ici à Paris. C'est l'heure du journal, toute l'actualité internationale. Bonjour Charlotte Hidrak.
Bonjour. Une nouvelle série de frappes israéliennes au Liban, sur la banlieue sud de Beyrouth ces dernières heures. Israël, où un ministre d'extrême droite promet une annexion de la Cisjordanie occupée, et cela en 2025, on y revient dans un instant. Le sommet des dirigeants de la COP29 à la conférence climat en Azerbaïdjan, il n'y a pas foule de chefs d'État et de gouvernement. Donald Trump, président élu, est-il encore injusticiable comme les autres? Un juge va devoir trancher aujourd'hui sur sa condamnation dans l'affaire Stormy Daniels. À suivre aussi l'avion furtif chinois J-35A Star du salon aéronautique de Zhuhai. Travailler moins ou gagner plus, les salariés de la métallurgie pourront choisir en Allemagne. Et puis la grogne à l'Opéra de Paris contre le concours annuel. C'est le seul moyen pour les danseurs de monter dans la hiérarchie du corps de ballet. Trop de stress, trop de souffrance pour ses détracteurs.
Des colonnes de fumée au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne a frappé plusieurs zones ces dernières heures près de la capitale libanaise. Des zones considérées comme des fiefs du Hezbollah.
Le ministre israélien de la Défense a prévenu il n'y aura pas de cessez-le-feu au Liban tant que les objectifs de l'État hébreu n'auront pas été atteints. De son côté, le ministre israélien des Finances d'extrême droite, lui, a promis l'annexion des colonies de Cisjordanie dès l'an prochain. Pour lui, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est une occasion, dit-il, Sami Bourlefa.
Bezalel Smotrich, colon israélien, suprémaciste juif, ministre des Finances de l'État hébreu. Il est aussi, de fait, le gouverneur de la Cisjordanie occupée, car il a réussi à obtenir du Premier ministre Benjamin Netanyahou la création d'un sous-ministère rattaché à la Défense pour la gestion des activités civiles en Cisjordanie. Son ambition, annexer ce territoire palestinien. Le moment est arrivé, dit-il. Le retour de l'administration Trump nous en offre l'opportunité, affirme celui qui se présente volontiers comme un fasciste. Pour lui, la création d'un État palestinien met en danger l'existence d'Israël. Et sa voix n'est pas minoritaire au sein du gouvernement israélien. Selon la radio publique israélienne, Benjamin Netanyahou et ses conseillers travaillent également sur la question sur fond de retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Car durant son premier mandat, le milliardaire républicain a piétiné le droit international pour faire plaisir aux Israéliens. Reconnaissance de Jérusalem, ville en partie annexée, comme la capitale de l'État hébreu. Reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan syrien occupé. Et l'administration Trump avait même déclaré que les colonies israéliennes en Palestine n'étaient pas illégales. Sami Bourlefa, Jérusalem. RFI.
Bezalel Smotrich qui est invité demain à Paris pour un événement de soutien à l'État hébreu intitulé Israel Forever. C'est organisé par plusieurs personnalités d'extrême droite. Mais selon Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, invité ce matin sur RFI et France 24, sa venue n'est pas confirmée. J'ajoute que l'armée israélienne a annoncé là l'ouverture d'un nouveau point de passage pour l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, et cela à la veille d'une date butoir fixée par les États-Unis.
Le retour de Donald Trump, son équipe commence à prendre forme.
Avec les premières nominations et pour le poste clé de secrétaire d'État, donc de chef de la diplomatie, selon le New York Times, c'est Marco Rubio qui serait pressenti, l'influent sénateur républicain d'origine cubaine. Pas de commentaire pour le moment dans son entourage. Donald Trump élu, est-il encore injusticiable comme les autres? Pourra-t-il se débarrasser de sa condamnation dans l'affaire Stormy Daniels, cette affaire de paiement caché à une star de film X? C'est une décision très lourde que doit prendre un juge ce mardi. Immunité ou non, les juristes américains s'arrachent les cheveux. Et c'est valable, Vincent Souriau, pour les quatre dossiers qui tournent autour de la future Maison-Blanche.
1. Le dossier Stormy Daniels. En 2016, Donald Trump couche avec une actrice porno. Il achète son silence et maquille ses comptes pour étouffer le scandale. Au mois de mai, il a été jugé coupable par un jury à New York. Mais en raison de l'immunité présidentielle, ne faut-il pas renverser ce verdict? C'est ce que doit trancher le juge Merchan aujourd'hui. 2. L'élection présidentielle de 2020. À l'époque, Donald Trump refuse de s'incliner face à Joe Biden. Il crie à la fraude. Ses partisans envahissent le Capitole. Il est inculpé de tentative de subversion. Mais Jack Smith, le procureur spécial qui mène cette enquête, vient de demander une pause de la procédure afin d'examiner les suites à y donner. 2003. Après son premier mandat, Donald Trump conserve des documents confidentiels dans sa résidence privée en Floride. Des dizaines de cartons stockés un peu partout chez lui. Il refuse de les rendre. C'est illégal. Il est mis en examen. Mais plusieurs recours sont à l'étude. 4. La Géorgie. L'autre affaire électorale qui remonte à 2020. Trump accusé d'avoir fait pression sur les autorités locales de l'État de Géorgie afin qu'elles altèrent le résultat du vote. Rien de neuf attendu dans ce dossier avant 2025. Et d'ici là, Donald Trump aura pris ses fonctions de président.
Les États-Unis qui ont tenté de rassurer à la COP29 sur leur engagement, et ce malgré le retour d'un président climato-sceptique.
Avec le risque d'une sortie du pays de l'accord climat de Paris, ça pèse sur les discussions qui se déroulent à Bakou en Azerbaïdjan. Avec au programme aujourd'hui et demain le sommet des dirigeants, même si la plupart des chefs d'État et de gouvernement du G20 sont absents, malgré cela, les pays en développement ne peuvent pas repartir les mains vides, c'est ce qu'a dit le patron de l'ONU tout à l'heure, Antonio Guterres, a lancé un appel sur le financement des aides aux États les plus vulnérables au changement climatique. C'est le gros enjeu de cette COP. Les riches sont la source du problème, dit-il. Les pauvres en paient le prix.
Les pays en développement qui veulent agir se heurtent à de nombreux obstacles. Finances publiques insuffisantes, coûts exorbitants du capital, catastrophes climatiques qui coûtent cher et services de la dette qui absorbent les fonds. Le résultat, pas d'adaptation et une transition à double vitesse. L'année dernière, les pays en développement et les pays émergents, en dehors de la Chine, ont reçu à peine 0,15 $ pour chaque dollar investi dans l'énergie propre au niveau mondial. La COP29 doit abattre les murs du financement climatique. Les pays en développement ne doivent pas quitter Bakou les mains vides. Un accord est indispensable et je suis confiant. Il n'y a pas de temps à perdre. Le monde doit régler sa dette, sinon l'humanité en paiera le prix. Le financement de la lutte contre le changement climatique n'est pas de la charité, c'est un investissement. L'action climatique n'est pas facultative, c'est un impératif.
Voilà l'appel du secrétaire général de l'ONU. De son côté, l'hôte de cette conférence, le président Aliyev d'Azerbaïdjan, lui, a défendu les ressources gazières et pétrolières, des cadeaux de Dieu selon lui.
RFI, Radio France Internationale.
En Russie, les députés disent oui aux valeurs traditionnelles. Ils ont voté une loi qui interdit la promotion de la vie sans enfants dans les médias, les films ou encore les publicités. Ce texte doit encore être validé par la Chambre haute du Parlement et puis signé par le président Vladimir Poutine. Le grand oral des poids lourds de la nouvelle Commission européenne. Aujourd'hui, les 6 vice-présidents potentiels auditionnés par les eurodéputés à Bruxelles. Alors ce matin, la nouvelle chef de la diplomatie européenne, l'estonienne Kaja Kallas, a plaidé pour un soutien de l'UE à l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Autre discours particulièrement scruté, celui de l'italien Raffaele Fitto, membre du parti d'extrême droite de la chef du gouvernement Giorgia Meloni. Vers des élections le 23 février en Allemagne, le pays en crise politique après la rupture, l'éclatement de la coalition dirigée par Olaf Scholz. Les sociodémocrates, les Verts et les conservateurs ont proposé donc cette date du 23 février après plusieurs jours de bras de fer.
Le bras de fer aussi dans la métallurgie en Allemagne et cet accord signé ce matin entre le syndicat IG Metall et le patronat.
Voilà un accord tarifaire pour près de 4 millions de salariés du secteur. Ils pourront choisir, ces salariés, entre une augmentation de salaire ou alors une réduction du temps de travail, Nathalie Versieux.
Les salariés de la métallurgie auront le choix entre 5% de hausse de salaire et une prime de 600 € ou 6 jours de congés supplémentaires à la place des augmentations, notamment pour les parents d'enfants de moins de 12 ans. Les 4 millions de salariés de l'industrie automobile, de la sidérurgie et de la machine-outil ont finalement obtenu beaucoup plus que les 3,9% de hausse de salaire proposés par le patronat, et ce, sans grève dure. Mais c'est aussi nettement moins que les 7% revendiqués par IG Metall pour 2025. Tout est finalement allé très vite pour la métallurgie allemande, alors que la perspective de jours sont nombres se précisent pour l'économie du pays qui sera cette année encore en récession. Ni le patronat ni les syndicats n'avaient finalement intérêt à se lancer dans un conflit de longue durée. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
En Espagne, le couple royal bientôt de retour auprès des sinistrés des inondations d'il y a tout juste 2 semaines, selon une source proche de la famille royale. Après un déplacement mouvementé, un premier déplacement dans les zones dévastées, le roi Philippe VI et la reine Laetitia avaient été chahutés par une foule en colère. Ce nouveau déplacement est prévu en début de semaine prochaine. Alors que les autorités espagnoles sont sous pression, critiquées pour la gestion de la catastrophe, le temps du débat politique viendra après la reconstruction, disait hier le Premier ministre Pedro Sanchez. Comment ces déclarations sont-elles perçues, François Musso ?
Priorité aux parents des victimes, à ceux qui recherchent les gens disparus. Priorité aux aides logistiques, aux travaux de nettoyage des rues envahies par la boue et la ferraille de quelques 120 000 véhicules détruits par les inondations. Tel est le discours du chef du gouvernement Pedro Sanchez ces derniers jours, mais c'est un discours qui commence à prendre l'eau aussi. Tout d'abord parce que des milliers de gens affectés manifestent leur colère, car ils se sentent seuls, désemparés, lorsque les secours ne sont pas arrivés. D'autant que des activistes complotistes d'extrême droite attisent leur ressentiment avec de fausses informations. Ensuite parce que l'opposition de droite accuse le pouvoir en place de ne pas avoir pris plus tôt les rênes des secours et des aides. Enfin, parce que les médias ont, eux, entamé déjà le débat sur les responsabilités réciproques, en particulier celle du président régional libéral Carlos Mason qui, le 29 octobre, le jour fatidique, avait réagi très tardivement à une tragédie évidente. Un Carlos Mason qui a déjà annoncé un remaniement de son exécutif, une façon indirecte de reconnaître ses torts. François Musso, Madrid RFI.
Encore très peu d'informations et peu de détails sur une attaque à la voiture Bélier survenue en Chine à Zhuhai, c'est dans le sud du pays. 35 personnes ont été tués et 43 blessés selon la police locale qui indique pour le moment qu'un suspect a foncé avec cette voiture sur un centre sportif mais sans plus de précision. C'est justement dans cette zone de Zhuhai dans le sud que s'ouvre aujourd'hui le grand salon aéronautique chinois. C'est là que sont présentées les dernières avancées technologiques. Avions de ligne, avions militaires et drones. Les experts et les compétiteurs stratégiques seront à l'affût des dernières productions chinoises avec un intérêt tout particulier pour le J-35A. C'est le tout dernier avion de chasse chinois dit de 5e génération, Franck Alexandre.
À l'évidence, l'avion de chasse multirôle J-35A sera la star du salon. Un avion de combat furtif, donc de 5e génération. Avec cet appareil, indique Xavier Titelman, expert aéronautique, l'armée populaire de libération entre dans la cour des grands.
Le J-35A, c'est un avion qui est qualifié de 5e génération par les Chinois, même si aujourd'hui on a quand même des doutes sur l'efficacité de sa furtivité, mais extérieurement et en affichage, en tout cas, c'est vrai qu'ils annoncent un appareil qui serait en tout cas supérieur aux avions de 4e génération comme les F-16 ou les F-15. Là, on est sur des premières versions a priori de série et dont un exemplaire est maintenant présenté. Alors évidemment, il va être une attraction pour tout le monde et c'est vrai que industriellement, il fait un petit peu une grosse différence avec l'équivalent russe, le Sukhoi 57. L'avion chinois a l'air d'être supérieur à ce que font les Russes aujourd'hui.
Les experts comparent le J-35A au F-35 américain, un avion qui lui aussi pourra équiper les porte-avions. Il devrait prendre son envol du Fujian, le 3e porte-avions en cours d'essai à la mer et futur fer de lance de la marine chinoise.
Le salon aéronautique de Zhuhai en Chine, c'est jusqu'au 17 novembre. En France, après des heures et des heures de débats, place au vote cet après-midi à l'Assemblée sur le budget 2025, plus précisément sur la partie recettes de ce budget. Le vote est prévu à partir de 16h30.
Fronde dans le ballet de l'Opéra de Paris. Faut-il garder le concours pour monter dans la hiérarchie du corps de ballet ?
Ce concours, c'est une étape tous les ans, une spécificité qui ne se pratique nulle part ailleurs, hein, dans aucune autre compagnie au monde. Mais c'est fondamental pour l'évolution des danseurs de l'Opéra de Paris. C'est beaucoup de stress, beaucoup de souffrance aussi. Et donc, les délégués du ballet de l'Opéra souhaitent le supprimer, Muriel Malouf.
Le ballet de l'opéra, c'est en quelque sorte une armée de danseurs. 150 en tout, répartis en 5 échelons. Dans cette structure pyramidale, les quadrilles sont au bas de l'échelle, puis viennent les coryphées, les sujets, les premières et premiers danseuses et danseurs, et enfin les étoiles qui brillent dans les solos. Le concours est le seul moment de l'année probablement où, quand on est au bas de la hiérarchie, noyé dans les mouvements d'ensemble du corps de ballet, on peut exécuter seul sur scène une variation devant un jury composé du directeur de l'opéra, du directeur de la danse entre autres, mais aussi devant un public. Certes, le risque est qu'on ne soit pas dans sa meilleure forme ce jour-là. Alors que faire de ce concours fondé en 1860, près de 2 siècles après la création de la compagnie par Louis XIV? Les avis sont partagés au sein de l'opéra qui s'accorde une année de réflexion et d'expérience. Le 16 novembre prochain, le concours sera uniquement à l'attention des quadrilles. Quant aux modalités des autres promotions, elles restent à définir en concertation avec les danseurs et les syndicats.
Muriel Malouf, et puis avis aux surfeurs. Selon des chercheurs australiens, les planches de surf qui sont décorées de lumières brillantes pourraient dissuader les requins d'attaquer. Selon cette étude, les lumières déforment la silhouette de la planche à la surface de l'océan et donc ça les rendrait moins appétissantes, entre guillemets. Précision, ça marche mieux avec les lumières horizontales que verticales.
Merci Charlotte Hydrac. Il est 13h15 ici à Paris. La suite, c'est l'actualité sportive. Bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bonjour Anne.
On va commencer par du football et cette nouvelle séquence internationale qui débute. En Europe, les sélections disputent ces prochains jours les 5e et 6e journées de la Ligue des Nations.
Et logiquement la 5e d'abord à partir de jeudi avec les deux matchs du groupe 2, Belgique-Italie et France-Israël. Les Bleus réunis depuis hier à Clairefontaine, une nouvelle tête dans ce groupe, le jeune et très talentueux gardien de Lille, Lucas Chevalier, appelé pour la première fois par le sélectionneur Didier Deschamps. Il est revenu ce matin sur ce moment très particulier pour lui.
J'étais dans ma voiture et puis forcément les vibrations du téléphone ont fait que j'ai vite compris ce qui se passait. Ça fait rêver, forcément c'est mon pays, c'est la nation, c'est assez épuisant aussi mentalement avec tous les messages qu'on a. On essaie de répondre à tout le monde, mais on doit aussi gérer aussi sa période de satisfaction, de se remettre les pieds sur terre, d'accepter le changement de vie. Mais voilà, je boude pas mon plaisir. J'ai travaillé pour en être là et j'ai un entourage assez sain et qui m'a permis de pouvoir surmonter ça avec de la joie, mais assez sereinement.
Lucas Chevalier qui devrait regarder du banc de touche le match entre les Bleus et Israël jeudi. Pour l'instant, pas de débat. Le titulaire du poste reste son ancien coéquipier et mentor, son ami Mike Maignan.
En rugby, un absent de plus pour le 15 de Fabien Galthié avant le test match face à la Nouvelle-Zélande samedi au Stade de France.
Après François Cross, autre forfait de poids, Damien Penaud manquera lui aussi ce choc face aux All Blacks. L'ailier aux 36 essais sous le maillot français et souffrant, c'est Gabin Villière qui devrait prendre sa place.
En basket, Victor Wembanyama retrouve son adresse face au panier. Match très impressionnant du français hier soir sur les parquets de la NBA.
34 points, 14 rebonds, 6 passes décisives pour Wemby, des statistiques beaucoup plus flatteuses que lors de ses dernières sorties, et à l'arrivée, large victoire de San Antonio sur Sacramento, 116-96. Les Spurs restent quand même au fond de la classe, 12e sur 15 équipes dans la conférence Ouest.
Et puis un mot du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire, sans assistance et sans escale. Les 40 skippers ont passé leur deuxième nuit en mer.
Et pour l'instant, pas de casse importante. En tout cas, le golfe de Gascogne est passé. Tous les bateaux sont toujours en course, en route vers le sud de la péninsule ibérique. Ils ont retrouvé un peu de vent, de vitesse au dernier pointage. C'est le Britannique Sam Goodchild qui avait pris la tête, talonné par Charlie Dalin, le Français. Les écarts ne sont pas encore très significatifs. On est au début, enfin surtout ces navigateurs et navigatrices, au début de leur périple.
Merci Thomas de Saint-Léger, 13h19 ici à Paris.
RFI Midi, le monde à la mi-journée.
C'est un autre effet de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, l'opportunité pour le gouvernement israélien d'annexer la Cisjordanie. C'est en tout cas l'ambition du ministre radical Bezalel Smotrich, en charge des finances et en charge aussi de la gestion des activités civiles de ce territoire palestinien occupé. Les pays arabes et musulmans, eux, réunis à Riyad, ont estimé qu'une paix juste et globale dans la région ne pouvait être obtenue sans mettre un terme à l'occupation israélienne dans l'ensemble des territoires occupés depuis 67, donc aussi la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Bonjour Jean-Paul Chagnolo.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Et vous avez coécrit le livre Atlas du Moyen-Orient qui est paru l'année dernière aux éditions Autrement. Ce ministre israélien des Finances d'extrême droite veut donc annexer les colonies. Qu'est-ce qu'elles représentent aujourd'hui, ces colonies, comme portion du territoire ?
Écoutez, l'essentiel des colonies en Cisjordanie se trouve dans ce qu'on appelle la zone C, en référence au découpage qui devait être provisoire au moment des accords d'Oslo dans les années 90. Et ça représente environ 55-60% du territoire de la Cisjordanie, le reste étant donc les zones B et C qui sont essentiellement constituées des villes, des grandes villes palestiniennes et des villages.
Alors la voilà, population... puisque vous parlez des différentes zones, peut-être on va dire un mot du fonctionnement de l'administration en Cisjordanie, puisque toutes les zones ne sont pas soumises aux mêmes autorités.
Oui, mais tout ça, si vous voulez, c'est des rapports de force. D'un point de vue purement, disons, juridique, les accords d'Oslo avaient effectivement, dans les années 93-95, avaient donc dessiné trois zones. La zone A concernant, en gros, les villes palestiniennes, où l'autonomie palestinienne devait être une réalité. Les zones B, où sont, en gros, les villages, c'était une sorte de contrôle partagé entre l'autorité palestinienne et puis Israël. Et puis la zone C, entièrement sous le contrôle d'Israël. Sauf qu'il faut rappeler que quand on dit ABC, dans les accords d'Oslo, tout devait devenir dans la zone A, autrement dit, c'était temporaire, de telle façon qu'on aboutisse à un État palestinien. Aujourd'hui, bien entendu, on en est très loin, et ce découpage s'est figé, au lieu d'évoluer vers de C à A, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait plus de contrôle israélien sur le territoire. Ça a été un piège pour les Palestiniens, puisque désormais, depuis 25 ans, 30 ans maintenant, cette zone C est devenue le lieu où les Israéliens ont construit beaucoup de colonies, et puis surtout où il y a eu de plus en plus de colons. Aujourd'hui, on est environ, en comptant Jérusalem-Est, à 700 000 colons. Pour vous donner une idée, dans les années 80, il y en avait 10 000 ou 20 000. Donc c'est une progression absolument sidérale qui a beaucoup augmenté à l'époque d'Oslo, alors même qu'on parlait de paix, et qui a considérablement augmenté ces dernières années, et notamment les deux dernières années avec les gouvernements qui constituent la coalition actuelle, avec les ministres dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire des ministres de l'extrême droite. Mais l'ensemble du Likoud est absolument arc-bouté sur l'idée qu'il faut coloniser et coloniser encore la Cisjordanie.
Ces accords d'Oslo dont vous parlez prévoyaient la création d'un État palestinien. Un autre ministre israélien, celui des Affaires étrangères qui vient d'être nommé, a assuré que vouloir établir un État palestinien n'était pas un projet réaliste aujourd'hui. C'est encore possible la création d'un État palestinien ?
La position des gens de Likoud, donc Gideon Sfar dont vous parlez, a toujours été contre l'idée d'un État palestinien. On évoquait Oslo, donc les années, disons, entre 90 et 2000. Les travaillistes étaient pour l'idée d'un État, sous certaines conditions, bien entendu, un État palestinien. Et à l'inverse, la droite, le Likoud, Netanyahou et tous les autres étaient absolument contre. Donc il n'y a rien de changé là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, il y a ces drames absolus à Gaza et en complément en Cisjordanie. C'est le seul moyen d'arriver un jour à une paix juste et équilibrée que de créer un État palestinien à côté de l'État d'Israël. C'est la seule solution possible. C'est ce que toutes les résolutions des Nations Unies proposent. C'est ce que la plupart des États dans le monde proposent. Même les Américains ont évoqué récemment dans une résolution, c'était avec Biden, cette idée. C'est vraiment la seule solution. Sinon, c'est quoi ? C'est une guerre sans fin. Et malheureusement, c'est ce scénario.
Pour l'instant, c'est ce qu'on observe. On a vu d'ailleurs depuis un peu plus d'un an l'armée israélienne multiplier des raids dans certaines villes de Cisjordanie. Je pense par exemple à Toulkarem ou à Jénine.
Bien sûr.
À quoi ressemble aujourd'hui le quotidien dans ces localités palestiniennes ?
C'est un quotidien impossible, c'est-à-dire que la moindre esquisse de résistance à l'occupation est un risque de mort. On est à 700 ou 800 morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre 2023. Donc c'est une situation impossible. Et bien entendu, comme l'économie est entièrement cadenassée par l'armée israélienne, des dizaines de milliers de gens ont perdu leur emploi parce qu'on ne peut plus circuler. On ne peut plus aller de Naplouse à Hébron, c'est-à-dire on ne peut plus aller du nord de la Cisjordanie au sud. Donc c'est une situation d'étouffement absolu qui est évidemment liée à ce qui se passe à Gaza. Et ça va continuer. Et le problème maintenant, c'est qu'avec l'arrivée de Trump, on va sans doute ressusciter le plan Trump des années 2017, 18, 19, 20, et ce plan Trump, c'est vraiment un désastre pour les Palestiniens, et ça peut aboutir, comme vous l'évoquiez au début, à l'annexion, non pas peut-être de toute la Cisjordanie, mais de la zone C, c'est-à-dire de la plus grande partie du territoire de Cisjordanie, ce qui laisserait aux Palestiniens, c'est en fait des espèces de bantoustan où les 3 millions de Palestiniens qui vivent en Cisjordanie seraient en quelque sorte enfermés, quoi. Parce que la zone C, il n'y a pas beaucoup de population palestinienne, elle est concentrée dans les zones A et B. Donc on aurait un schéma absolument apocalyptique d'une annexion d'une partie d'un territoire qui est fondamentalement palestinien, bien entendu, qui serait sans doute interdit aux Palestiniens. Et on aurait ensuite des bantoustans, donc les villes que j'évoquais, les villages autour de ces villes, qui seraient des villes palestiniennes, mais qui n'auraient aucune espèce de possibilité de se développer. Et pour prendre un mot très simple, aucune possibilité de vivre. Pendant qu'à Gaza, on va enfermer dans le sud de Gaza les 2 millions de Palestiniens. Donc on dessine un scénario absolument cataclysmique s'il n'y a pas de réaction, et malheureusement on ne voit pas d'où pourraient venir les réactions internationales, sous réserve de ce qu'ont fait le week-end dernier les États arabes et les musulmans qui rappellent les fondamentaux, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient en capacité d'imposer leur point de vue.
Je vous remercie beaucoup Jean-Paul Chaillonneau d'avoir été en ligne avec nous, professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, l'IREMO. Vous avez aussi co-écrit le livre Atlas du Moyen-Orient qui a été publié par les éditions Autrement en 2023. Merci beaucoup. Reportage en Australie à présent. L'Australie, c'est l'un des pays qui accueille le plus d'étudiants étrangers au monde, près d'un million de personnes. C'est trop, selon le gouvernement, qui souhaite en réduire le nombre, voire le diviser par deux, car les étudiants sont accusés de contribuer à la flambée des loyers dans les grandes villes. Mais les étudiants sont aussi une source de revenus pour le pays, et leur présence est utile à certains secteurs, comme l'enseignement ou la recherche. Reportage, Grégory Pless.
Vache à lait pour les uns, bouc émissaire pour les autres, les étudiants étrangers sont actuellement en Australie au cœur de toutes les discussions. Représentant à eux seuls la moitié de tous les immigrés arrivés en Australie en 2023, ils sont pointés du doigt par certains qui les estiment responsables de la forte tension sur le marché immobilier. Les loyers ont en effet augmenté de près de 10% en un an dans les grandes villes du pays. Mais pour le spécialiste de l'immigration Abdul Rizvi, le rôle joué par les étudiants étrangers dans cette crise est largement surévalué.
Les étudiants, en général, vivent dans des résidences étudiantes, près des universités, pas dans les banlieues pavillonnaires, où la tension est la plus forte sur le marché de la location. Donc oui, ils participent à la pression sur le marché immobilier, mais les accusations à leur encontre sont exagérées.
Toujours est-il que le gouvernement a décidé, il y a quelques mois, de plus que doubler le prix des visas étudiants et d'exiger désormais que ces derniers disposent d'au moins 18 000 euros sur leur compte en banque pour obtenir un titre de séjour. Il compte par ailleurs instaurer l'année prochaine des quotas et limiter à 270 000 le nombre de visas délivrés, soit une baisse de plus de 15% par rapport à 2023. Une catastrophe dont les conséquences se font déjà sentir d'après Luke Sheehy, le président de Universities Australia, qui représente la filière.
Le gouvernement a déjà délivré 60 000 visas de moins au cours des 6 premiers mois de l'année, ce qui menace 1 400 emplois dans le seul secteur universitaire. Et les quotas annoncés auront un impact sur d'autres emplois.
Plusieurs universités ont d'ores et déjà annoncé des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars et des centaines de suppressions de postes dans l'enseignement et la recherche. Par ailleurs, certains regrettent que le débat n'ait porté que sur l'immigration et pas sur l'éducation, alors qu'elle est quand même directement concernée. C'est le cas, par exemple, de Nicolou, chef économiste du Menzies Research Center.
Dans certaines filières universitaires, il y a 70, 75, voire 80% d'étudiants étrangers, ce qui abaisse la qualité de l'éducation dispensée. Nous pensons que plutôt qu'un quota global, il faudrait fixer des limites par cursus, ce qui permettrait de régler les deux problèmes à la fois, celui de l'éducation et de l'immigration.
De nombreux témoignages de professeurs soulignent en effet que face à de nombreux étudiants étrangers ne maîtrisant pas toujours très bien l'anglais, ceux-ci ont tendance à simplifier leurs cours. Mais cette proposition d'établir des quotas par filière n'a pas été retenue par le gouvernement, qui compte faire voter sa loi au Parlement à la mi-novembre. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Un reportage à retrouver comme toutes nos informations sur l'application RFI Pure Radio. Vous pouvez aussi nous suivre évidemment sur internet rfi.fr. Restez à l'écoute, on se retrouve dans quelques secondes maintenant pour l'actualité africaine. Afrique Midi avec Nicolas Sura, tout de suite.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
L'Afroclub, c'est le terrain des musiques modernes d'Afrique et de sa diaspora, avec d'abord une sélection des derniers sons de la nouvelle scène. Des artistes locaux aux stars internationales, vibrés au rythme des musiques urbaines. Et dans notre rubrique Actu, ne manquez rien de ce qui fait bouger les arts et la culture sur le continent.
Chaque jeudi, retrouvez l'Afroclub et faites le tour des tendances musicales afro-urbaines avec musique.rfi.fr.